Les frères Karamazov, première partie, livre 3, les sensuels. Chapitre 1, dans l'antichambre. Fiodor Pavlovitch habitait assez loin du centre, une maison quelque peu délabrée, mais encore solide. Cet édifice, peint en gris et protégé par un toit de tôle rouge, était spacieux et confortable. Il comprenait un rez-de-chaussée, un entresol, ainsi que force resserre, recoins et escaliers dérobés. Les rats y pullulaient, mais Fiodor Pavlovitch ne leur en voulait pas trop. « Avec eux, disait-il, les soirées ne sont pas si ennuyeuses quand on reste seul. » Il avait en effet l'habitude d'envoyer les domestiques passer la nuit dans le pavillon et de s'enfermer dans la maison. Ce pavillon, situé dans la cour, était vaste et solide. Fiodor Pavlovitch y avait installé la cuisine. Il n'aimait pas les odeurs de cuisine, et on apportait les plats à travers la cour, hiver comme été. Cette demeure avait été bâtie pour une grande famille, et on aurait pu y loger 5 fois plus de maîtres et de serviteurs. Mais lors de notre récit, le corps principal n'était habité que par Fiodor Pavlovitch et son fils Ivan, et le pavillon des gens seulement par 3 domestiques, le vieux Grigori, sa femme, Marthe, et le jeune valet Smerdiakov. Nous aurons à parler plus en détail de ces 3 personnages. Il a déjà été question du vieux Grigori Vassilievitch Kutuzov. C'était un homme ferme et inflexible, allant à son but avec une rectitude obstinée, pourvu que ce but s'offrit à lui, pour des raisons souvent étonnamment illogiques, comme une vérité infaillible. Bref, il était honnête et incorruptible. Bien qu'aveuglément soumise toute sa vie à la volonté de son mari, sa femme l'avait tourmentée, aussitôt après l'affranchissement des serres, pour quitter Fiodor Pavlovitch et aller entreprendre un petit commerce à Moscou, car ils avaient des économies. Mais Grigori décida une fois pour toutes que son épouse avait tort, toutes les femmes étant toujours déloyales. Ils ne devaient pas quitter leur ancien maître, quel qu'il fût, parce que c'est leur devoir maintenant. « Comprends-tu ce qu'est le devoir ? » demanda-t-il à Marthe Ignatievna. « Je le comprends, Grigori Vassilievitch, mais en quoi est-ce notre devoir de rester ici ? Voilà ce que je ne comprends pas. » répondit fermement Marthe Ignatievna. « Que tu le comprennes ou non, cela sera. Dorénavant, tais-toi. » C'est ce qui arriva. Ils restèrent, et Fiodor Pavlovitch leur assigna de modestes gages, payés régulièrement. De plus, Grigori savait qu'il exerçait sur son maître une influence incontestable. Bouffon, rusé et obstiné, Fiodor Pavlovitch, de caractère très ferme dans certaines choses de la vie, suivant son expression, était, à son propre étonnement, pusillanime dans quelques autres. Il savait lesquels et éprouvait bien des craintes. Dans certains cas, il lui fallait se tenir sur ses gardes. Il ne pouvait se passer d'un homme sûr. Or, Grigori était d'une fidélité à toute épreuve. À maintes reprises, au cours de sa carrière, Fiodor Pavlovitch risqua d'être battu, et même cruellement. Ce fut toujours Grigori qui le tira d'affaire, tout en lui faisant chaque fois des remontrances. Mais les coups seuls n'eussent pas effrayé Fiodor Pavlovitch. Il y avait des cas plus relevés, parfois même fort délicats, fort compliqués, où, sans qu'il sût trop pourquoi, il éprouvait le besoin d'avoir une personne sûre à ses côtés. C'étaient presque des cas pathologiques. Foncièrement corrompu et souvent luxurieux jusqu'à la cruauté, tel un insecte malfaisant, Fiodor Pavlovitch, dans des minutes d'ivresse, ressentait soudain une atroce angoisse. « Il me semble alors que mon âme palpite dans ma gorge, » disait-il parfois. Et dans ces moments-là, il aimait avoir auprès de lui, dans son entourage immédiat, un homme dévoué, ferme, point corrompu, qui, bien que témoin de son inconduite et au courant de ses secrets, toléra tout cela par dévouement, ne lui fit pas de reproche, ne le menaça d'aucun châtiment, soit dans ce monde, soit dans l'autre, et qui le défendit en cas de besoin. Contre qui ? Contre quelqu'un d'inconnu, mais de redoutable. Il lui fallait à tout prix, à proximité, un autre homme, dévoué de longue date, qu'il put appeler dans ses minutes d'angoisse, ne fût-ce que pour contempler son visage ou échanger avec lui quelques mots, même insignifiants. Le voyait-il de bonne humeur ? Il se sentait soulagé, tandis que dans le cas contraire, sa tristesse augmentait. Il arrivait, fort rarement d'ailleurs, à Fiodor Pavlovitch d'aller la nuit réveiller Grigori pour qu'il vînt un moment auprès de lui. Celui-ci arrivait. Son maître lui parlait de bagatelles et le renvoyait bientôt, parfois même en raillant et en plaisantant. Puis il se mettait au lit et s'endormait du sommeil du juste. Il se passa quelque chose d'analogue lors de l'arrivée d'Alyosha. Le jeune homme voyait tout et ne blâmait rien. Bien plus, loin de lui témoigner le moindre mépris, il faisait preuve envers son père d'une affabilité constante, d'un attachement sincère. Tout cela parut inouï au vieux débauché et lui transperça le cœur. Au départ d'Alyosha, il dut s'avouer qu'il avait compris quelque chose, qu'il se refusait jusqu'alors à comprendre. J'ai déjà mentionné, au début de mon récit, que Grigori avait pris en grippe Adélaïde Ivanovna, la première femme de Fiodor Pavlovitch et la mère de son premier fils, Dmitri, et qu'au contraire, il avait défendu la seconde épouse, la possédée, Sophie Ivanovna, contre son maître lui-même et contre quiconque prononçait à son égard une parole malveillante ou inconsidérée. Sa sympathie pour cette malheureuse était devenue quelque chose de sacré, au point que 20 ans après, il n'eût supporté de personne la moindre allusion ironique à ce sujet. Grigori était un homme froid et grave, peu bavard, ne proférant que des paroles probantes, exemptes de frivolité. Au premier abord, on ne pouvait deviner s'il aimait ou non sa femme, alors qu'il aimait vraiment cette douce créature et que celle-ci s'en rendait bien compte. Cette Marthe Ignatievna était peut-être plus intelligente que son mari, du moins plus judicieuse dans les affaires de la vie. Cependant, elle lui était aveuglément soumise et le respectait sans contredit pour sa hauteur morale. Il faut remarquer qu'il n'échangeait que les strictes paroles indispensables. Le grave et majestueux Grigori, méditant toujours seul ses affaires et ses soucis, Marthe Ignatievna avait depuis longtemps compris que ses conseils l'importuneraient. Elle sentait que son mari appréciait son silence et y voyait une preuve d'esprit. Il ne l'avait jamais battue, sauf une fois, et pas sérieusement. La première année du mariage d'Adélaïde Ivanovna et de Fiodor Pavlovitch, à la campagne, les filles et les femmes du village, alors encore serves, s'étaient rassemblées dans la cour des maîtres pour danser et chanter. On entonna la chanson. Dans ces prés, dans ces beaux prés verts, et soudain, Marthe Ignatievna, qui était jeune alors, vint se placer devant le chœur et exécuta la danse russe, non pas comme les autres à la mode rustique, mais ainsi qu'elle l'exécutait lorsqu'elle était fille de chambre chez les riches Miusov, sur le théâtre de leur propriété, où un maître de danse venu de Moscou enseignait son art aux acteurs. Grigori avait vu le pas de sa femme, et une heure après, de retour au pavillon, il lui donna une leçon, en lui houspillant quelque peu les cheveux. Mais les coups se bornèrent à cela et ne se renouvelèrent jamais plus. Du reste, Marthe Ignatievna se promit de ne plus danser désormais. Dieu ne leur avait pas donné d'enfant, sauf un qui mourut en bas âge. Grigori aimait les enfants et ne rougissait pas de le montrer. Lorsqu'Adélaïde Ivanovna s'enfuit, il recueillit Dmitri, âgé de 3 ans, et prit soin de lui presque une année entière, le peignant et le lavant lui-même. Plus tard, il s'occupa aussi d'Ivan et d'Alexeï, ce qui lui valut un soufflet. Mais j'ai déjà narré tout cela. Son propre enfant ne lui donna que la joie de l'attente durant la grossesse de Marthe Ignatievna. À peine l'eut-il vu qu'il fut frappé de chagrin et d'horreur, car ce garçon avait 6 doigts. Grigori garda le silence jusqu'au jour du baptême et s'en alla exprès se taire au jardin, où pendant 3 jours il bêcha des planches dans le potager. L'heure du baptême arrivée, il avait enfin imaginé quelque chose. Entrant dans le pavillon où s'étaient rassemblés le clergé, les invités et Fiodor Pavlovitch, venu en qualité de parrain, il annonça qu'on ne devrait pas du tout baptiser l'enfant. Cela à voix basse, en articulant à peine un mot après l'autre et en fixant le prêtre d'un air hébété. « Pourquoi cela ?» s'informa celui-ci avec une surprise amusée. « Parce que c'est un dragon !» marmotta Grigori. « Comment cela, un dragon ? Quel dragon ?» Grigori se tut quelque temps. « Il s'est produit une confusion de la nature » murmura-t-il d'une façon fort confuse, mais très ferme, témoignant qu'il ne désirait pas s'étendre. On rit, et bien entendu, le pauvre enfant fut baptisé. Grigori pria avec ferveur près des fonts baptismaux, mais persista dans son opinion sur le nouveau-né. Du reste, il ne s'opposa à rien. Seulement, durant les 2 semaines que vécut ce garçon maladif, il ne le regarda presque pas, affectant même de ne pas le voir et demeurant le plus souvent dehors. Mais quand le bébé mourut des aftes, il le mit lui-même au cercueil, le contempla avec une profonde angoisse, et, la fosse une fois comblée, se mit à genoux et se prosterna jusqu'à terre. Par la suite, il ne parla jamais de ce petit, auquel, de son côté, Marthe Ignatievna ne faisait que rarement allusion, quand son mari était absent, et encore à voix basse. Marthe Ignatievna remarqua qu'après cette mort, il s'intéressa de préférence au divin, lisant les Ménées, le plus souvent seul et en silence, à l'aide de ses grandes besicles d'argent. Il lisait rarement à haute voix, tout au plus durant le carême. Il affectionnait le livre de Job, s'étant procuré un recueil des homélies et sermons de « Notre Saint-Père Isaac le Syrien », qu'il s'obstina à lire durant des années, presque sans y rien comprendre, mais que pour cette raison, peut-être, il appréciait par-dessus tout. Dans les derniers temps, il prêta l'oreille à la doctrine des Clistés, ayant eu l'occasion de l'approfondir dans le voisinage. Il fut visiblement ébranlé, mais ne se décida pas à adopter la foi nouvelle. Ses pieuses lectures rendaient naturellement sa physionomie encore plus grave. Peut-être était-il enclin au mysticisme. Or, comme un fait exprès, la venue au monde et la mort de son enfant à 6 doigts coïncidèrent avec un autre cas fort étrange, inattendu et original, qui laissa dans son âme une empreinte, comme il le dit une fois par la suite. Dans la nuit qui suivit l'enterrement du bébé, Marthe Ignatievna, s'étant réveillée, crut entendre les pleurs d'un nouveau-né. Elle prit peur et réveilla son mari. Celui-ci, prêtant l'oreille, insinua que c'était plutôt des gémissements de femme. Il se leva, s'habilla. C'était une nuit de mai assez chaude. Il sortit sur le perron, reconnut que les gémissements venaient du jardin. Mais la nuit, le jardin était fermé à clef du côté de la cour, et on ne pouvait y entrer que par là, une haute et solide palissade en faisant le tour. Retournant à la maison, Grigori alluma la lanterne, prit la clé, et sans prendre garde à l'effroi hystérique de son épouse, persuadé que son enfant l'appelait. Il entra en silence au jardin. Là, il se rendit compte que les gémissements partaient des étuves situées non loin de l'entrée. Il en ouvrit la porte et aperçut un spectacle devant lequel il demeura stupéfait. Une idiote de la ville, qui rôdait par les rues et que tout le monde connaissait sous le surnom d'Elisabeth Smerdiatchaya venait d'accoucher en cet endroit et se mourait à côté de son enfant. Elle ne lui dit mot pour la bonne raison qu'elle ne savait pas parler. Mais tout ceci demande des explications. Chapitre 2. Elisabeth Smerdiatchaya. Il y avait là une circonstance particulière qui impressionna profondément Grigori et acheva de fortifier en lui un soupçon répugnant. Cette Smerdiatchaya était une fille de fort petite taille, 5 pieds à peine. Ainsi cela rappelait avec attendrissement après sa mort de bonnes vieilles de notre ville. Son visage de 20 ans, sain, large, vermeil, était complètement idiot, avec un regard fixe et désagréable, bien que placide. Hiver comme été, elle allait toujours pieds nus, n'ayant sur elle qu'une chemise de chanvre. Ses cheveux presque noirs, extraordinairement touffus, frisés comme une toison, tenaient sur sa tête à la manière d'un énorme bonnet. En outre, ils étaient souvent souillés de terre, entremêlés de feuilles, de brindilles, de copeaux, car elle dormait toujours sur le sol et dans la boue. Son père, Ilia, individu sans domicile, ruiné et valétudinaire, fortement adonné à la boisson, demeurait depuis de longues années en qualité de manœuvre chez les mêmes maîtres, riches bourgeois de notre ville. Sa mère était morte depuis longtemps. Toujours maladif et aigri, Ilia battait sans pitié sa fille quand elle venait à la maison. Mais elle y venait rarement, étant accueillie partout en ville comme une simple d'esprit sous la protection de Dieu. Les patrons d'Ilia, lui-même, et beaucoup de personnes charitables, surtout parmi la classe marchande, avaient tenté à plusieurs reprises d'habiller Elisabeth d'une façon plus décente, la revêtant en hiver d'une pelisse de mouton et lui faisant chausser des bottes. D'habitude, elle se laissait faire docilement, puis, quelque part, de préférence sous le porche de l'église, elle ôtait tout ce dont on l'avait gratifié, que ce fût un mouchoir, une jupe, une pelisse ou des bottes, abandonnait tout sur place et s'en allait nu-pied, vêtue de sa seule chemise comme auparavant. Il arriva qu'un nouveau gouverneur, inspectant notre ville, fut offusqué dans ses meilleurs sentiments à la vue d'Élisabeth. Et, bien qu'il eût deviné que c'était une innocente, comme d'ailleurs on le lui exposa, il fit pourtant remarquer qu'une jeune fille errant en chemise enfreignait la décence et que cela devait cesser à l'avenir. Mais le gouverneur parti, on laissa Élisabeth comme elle était. Enfin, son père mourut, et en tant qu'orpheline, elle devint encore plus chère à toutes les personnes pieuses de la ville. En effet, tous semblaient l'aimer. Les gamins eux-mêmes, en gens, chez nous, fort agressive, surtout les écoliers, ne la taquinaient ni ne la maltraitaient. Elle pénétrait dans des maisons inconnues et personne ne la chassait. Au contraire, chacun la cajolait et lui donnait un demi-copèque. Elle emportait aussitôt ses piécettes pour les glisser dans un tronc quelconque, à l'église ou à la prison. Recevait-elle au marché un craquelin ou un petit pain, elle ne manquait pas d'en faire cadeau au premier enfant qu'elle rencontrait. Ou bien elle arrêtait une de nos dames les plus riches pour le lui offrir, et celle-ci l'acceptait avec joie. Elle-même ne se nourrissait que de pain noir et d'eau. Elle entrait parfois dans une riche boutique, s'asseyait, ayant auprès d'elle des marchandises de prix, de l'argent. Jamais les patrons ne se défiaient d'elle, sachant qu'elle ne prendrait pas un copec. Oublia-t-on des milliers de roubles à sa portée? Elle allait rarement à l'église, couchait soit sous les porches, soit dans un potager quelconque, après en avoir franchi la haie, car chez nous, beaucoup de haies tiennent encore lieu de palissades. Une fois par semaine en été, tous les jours en hiver, elle venait chez les maîtres de son défunt père, mais seulement pour la nuit, qu'elle passait dans le vestibule ou dans l'étable. On s'étonnait qu'elle pût supporter une telle existence, mais elle y était accoutumée. Bien que de petite taille, Elle avait une constitution exceptionnellement robuste. Certaines personnes de la société prétendaient qu'elle agissait par fierté, mais cela ne tenait pas debout. Elle ne savait pas dire un mot. Parfois seulement remuait la langue et mugissait. Que venait faire ici la fierté? Or, par une nuit de septembre, claire et chaude, où la lune était dans son plein, à une heure déjà fort tardive pour nos habitudes, une bande de 5 ou 6 fêtards, en état d'ivresse, rentrait du club, chez eux, par le plus court. Des deux côtés, la ruelle qu'ils suivaient était bordée d'une haie derrière laquelle s'étendaient les potagers des maisons riveraines. Elle aboutissait à une passerelle, jetée sur la longue mare infecte qu'on baptise parfois chez nous de « rivière ». Là, parmi les orties et les bardanes, notre compagnie aperçut Élisabeth endormie. Ces messieurs s'arrêtèrent auprès d'elle, éclatèrent de rire, plaisantèrent de la façon la plus cynique. Un fils de famille imagina soudain une question tout à fait excentrique. « Peut-on, demanda-t-il, tenir un tel monstre pour une femme ?» Tous décidèrent avec un noble dégoût qu'on ne le pouvait pas. Mais Fiodor Pavlovitch, qui faisait partie de la bande, déclara qu'on le pouvait parfaitement, qu'il y avait même là quelque chose de piquant dans son genre, etc. À cette époque, il se complaisait dans son rôle de bouffon, aimait à se donner en spectacle et à divertir les riches, en véritable pitre, malgré l'égalité apparente. Un crêpe à son chapeau, car il venait d'apprendre la mort de sa première femme, il menait une vie si crapuleuse que certains, même des libertins endurcis, se sentaient gênés à sa vue. Cette opinion paradoxale de Fiodor Pavlovitch provoqua l'hilarité de la bande. L'un d'eux commença même à le provoquer. Les autres montrèrent encore plus de dégoût, mais toujours avec une vive gaieté. Enfin, tous passèrent leur chemin. Par la suite, il jura qu'il s'était éloigné avec les autres. Peut-être disait-il vrai. Personne n'a jamais su ce qui en était. Mais 5 ou 6 mois plus tard, la grossesse d'Élisabeth excitait l'indignation de toute la ville, et l'on rechercha qui avait pu outrager la pauvre créature. Une rumeur terrible circula bientôt, accusant Fiodor Pavlovitch. D'où venait-elle? De la bande joyeuse, il ne restait alors en ville qu'un homme d'âge mûr, respectable conseiller d'État, père de grande fille, lequel n'eut rien raconté, même s'il s'était passé quelque chose. Les autres s'étaient dispersés. Mais la rumeur persistante continuait à désigner Fiodor Pavlovitch. Il ne s'en formalisa guère et eut dédaigné de répondre à des boutiquiers et à des bourgeois. Il était fier, alors, et n'adressait la parole qu'à sa compagnie de fonctionnaires et de nobles, qu'il divertissait tant. C'est alors que Grigori prit énergiquement le parti de son maître. Non seulement il le défendit contre toute insinuation, mais il se querella très fort à ce sujet et retourna l'opinion de beaucoup. « C'est la faute de cette créature, » affirmait-il, « et son séducteur n'était autre que Carpe à la vie. » Ainsi se nommait un détenu fort dangereux qui s'était évadé de la prison du chef-lieu et caché dans notre ville. Cette conjecture parut plausible. On se rappela que Carpe avait rôdé par ces mêmes nuits d'automne et dévalisé 3 personnes. Mais cette aventure et ces bruits, loin de détourner les sympathies de la pauvre idiote, lui valurent un redoublement de sollicitude. Une boutiquière assez riche, la veuve Kondratiev, décida de la recueillir chez elle, à la fin d'avril, pour y faire ses couches. On la surveillait étroitement. Malgré tout, un soir, le jour même de sa délivrance, Élisabeth se sauva de chez sa protectrice et vint échouer dans le jardin de Fiodor Pavlovitch. Comment avait-elle pu, dans son état, franchir une si haute palissade? Cela demeura une énigme. Les uns assuraient qu'on l'avait portée. D'autres voyaient là une intervention surnaturelle. Il semble bien que cela s'effectuât d'une manière ingénieuse, mais naturelle, et qu'Élisabeth, habituée à pénétrer à travers les haies dans les potagers pour y passer la nuit, grimpa, malgré son état, sur la palissade de Fiodor Pavlovitch, d'où elle sauta, en se blessant dans le jardin. Grigori courut chercher sa femme pour les premiers soins, puis alla quérir une vieille sage-femme qui demeurait tout près. On sauva l'enfant, mais la mère mourut à l'aube. Grigori prit le nouveau-né, le porta dans le pavillon, le déposa sur les genoux de sa femme. « Voici un enfant de Dieu, un orphelin dont nous serons les parents. C'est le petit mort qui nous l'envoie. Il est né d'un fils de Satan et d'une juste. Nourris-le et ne pleure plus désormais. » Marthe éleva donc l'enfant. Il fut baptisé sous le nom de Pavel, auquel tout le monde, à commencer par ses parents nourriciers, ajouta Fiodorovitch comme nom patronymique. Fiodor Pavlovitch n'y contredit pas et trouva même la chose plaisante, tout en désavouant énergiquement cette paternité. On l'approuva d'avoir recueilli l'orphelin, auquel plus tard il donna comme nom de famille celui de Smerdiakov, d'après le surnom de sa mère. Il servait Fiodor Pavlovitch comme second domestique et vivait, au début de notre récit, dans le pavillon, aux côtés du vieux Grigori et de la vieille Marthe. Il tenait l'emploi de cuisinier. Il faudrait lui consacrer un chapitre spécial, mais je me fais scrupule d'arrêter si longtemps l'attention du lecteur sur des valets, et je continue, espérant qu'il sera tout naturellement question de Smerdiakov au cours de mon récit. Chapitre 3. Confession d'un cœur ardent. En vers. En entendant l'ordre que lui criait son père de la calèche, à son départ du monastère, Alyosha demeura quelque temps immobile et fort perplexe. Enfin, surmontant son trouble, il se rendit aussitôt à la cuisine du père abbé pour tâcher d'apprendre ce qu'avait fait Fiodor Pavlovitch. Puis il se mit en route, espérant résoudre en chemin un problème qui le tourmentait. Disons-le tout de suite, les cris de son père et l'ordre de déménager avec oreiller et matelas ne lui inspiraient aucune crainte. Il comprenait parfaitement que cet ordre, crié en gesticulant, avait été donné par emballement, pour ainsi dire, et même pour la galerie. C'est ainsi que, quelque temps auparavant, un de nos citadins, ayant trop fêté son anniversaire et furieux de ce qu'on ne lui donnait plus de vodka, s'était mis devant ses invités à casser sa propre vaisselle, à déchirer ses vêtements et ceux de sa femme, à briser les meubles et les carreaux. Tout cela pour la galerie. Puis le lendemain, une fois dégrisé, avait amèrement regretté les tasses et les assiettes cassées. Alyosha savait que son père le laisserait sûrement retourner au monastère, peut-être dès le jour même. De plus, il était convaincu que le bonhomme ne voudrait jamais l'offenser, que jamais personne au monde, non seulement ne le voudrait, mais ne le pourrait. C'était pour lui un axiome, admis une fois pour toutes, et au sujet duquel il n'avait pas le moindre doute. Mais à ce moment, une crainte d'un tout autre ordre l'agitait, d'autant plus pénible que lui-même n'eût pu la définir, la crainte d'une femme, de cette Catherine Ivanovna, qui insistait tant, dans sa lettre remise le matin par Madame Koklakov, pour qu'il vînt la voir. Cette demande et la nécessité d'y obtempérer lui causaient une impression douloureuse qui, tout l'après-midi, ne fit que s'aggraver, malgré les scènes et les aventures qui s'étaient déroulées au monastère, etc. Sa crainte ne provenait pas de ce qu'il ignorait, ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. Ce n'était pas non plus la femme en général qu'il redoutait en elle. Certes, il connaissait peu les femmes, mais n'avait pourtant vécu qu'avec elles depuis sa tendre enfance, jusqu'à son arrivée au monastère. Mais, dès leur première entrevue, il avait éprouvé précisément pour cette femme-là une sorte d'épouvante. Il l'avait rencontrée deux ou trois fois au plus, et n'avait échangé que quelques mots avec elle. Il se la rappelait comme une belle jeune fille, fière et impérieuse. Ce n'était pas sa beauté qui le tourmentait, mais quelque chose d'autre, et son impuissance à expliquer la peur qu'elle lui inspirait augmentait cette peur. Le but que poursuivait la jeune fille était à coup sûr des plus nobles. Elle s'efforçait de sauver Dmitri, coupable envers elle, et cela par pure générosité. Néanmoins, malgré son admiration pour ses nobles sentiments, un frisson le parcourait à mesure qu'il approchait de chez elle. Il s'avisa qu'il ne trouverait pas en sa compagnie Ivan, son intime, alors retenu certainement par leur père. Dmitri ne pouvait pas davantage être chez Catherine Ivanovna, et il en pressentait la raison. Leur conversation aurait donc lieu en tête à tête. Mais auparavant, Alyosha désirait voir Dmitri, et sans lui montrer la lettre, échanger avec lui quelques mots. Or, Dmitri demeurait loin et n'était sans doute pas chez lui en ce moment. Après une minute de réflexion et un signe de croix hâtif, il eut un sourire mystérieux et se dirigea résolument vers la terrible personne. Il connaissait sa maison, mais en passant par la grande rue, puis en traversant la place, etc., il eut mis un certain temps à l'atteindre. Sans être grande, notre ville est fort dispersée et les distances considérables. De plus, son père se souvenait peut-être de l'ordre qu'il lui avait donné et était capable de faire des siennes. Il fallait donc se hâter. En vertu de ces considérations, Alyosha résolut d'abréger en prenant par les derrière. Il connaissait tous ses passages comme sa poche. Par les derrière, cela signifiait longer des clôtures désertes, franchir parfois des haies, traverser des cours, où d'ailleurs chacun le connaissait et le saluait. Il pouvait ainsi atteindre la grande rue en deux fois moins de temps. À un certain endroit, il dut passer tout près de la maison paternelle, précisément à côté du jardin contigu au leur, qui dépendait d'une petite maison à quatre fenêtres, délabrée et penchée de guingois. Cette masure appartenait à une vieille femme impotente qui vivait avec sa fille, ancienne femme de chambre dans la capitale, récemment encore en service chez des gens huppés, revenue à la maison depuis un an à cause de la maladie de sa mère, et paradant dans des robes élégantes. Ces deux femmes étaient pourtant tombées dans une profonde misère, et allait même chaque jour, en tant que voisine, chercher du pain et de la soupe à la cuisine de Fiodor Pavlovitch. Marthe Ignatievna leur faisait bon accueil, mais la fille, tout en venant chercher de la soupe, n'avait vendu aucune de ses robes. L'une d'elles avait même une traîne fort longue. Alyosha tenait ce détail de son ami Rakitine, auquel rien n'échappait dans notre petite ville. Bien entendu, il l'avait oublié aussitôt. Arrivé devant le jardin de la voisine, il se rappela cette traîne, releva rapidement sa tête courbée, pensive, et fit soudain la rencontre la plus inattendue. Derrière la haie, debout sur un monticule et visible jusqu'à la poitrine, son frère Dmitri l'appelait à grands gestes, tout en évitant non seulement de crier, mais même de dire un mot, de peur d'être entendu. Alyosha accourut vers la haie. « Par bonheur, tu as levé les yeux, sinon j'aurais été obligé de crier !» chuchota joyeusement Dmitri. « Saute-moi cette haie vivement, comme tu arrives à propos. Je pensais à toi !» Alyosha n'était pas moins content, mais il ne savait trop comment franchir la haie. Dmitri, de sa main d'athlète, le souleva par le coude et l'aida à sauter. Ce qu'il fit, le froc retroussé, avec l'agilité d'un gamin. « Et maintenant, en avant, marche !» murmura Dmitri, transporté de joie. « Mais où ?» fit Alyosha, regardant de tous côtés et se voyant dans un jardin désert, où il n'y avait qu'eux. Le jardin était petit, mais la maison se trouvait au moins à 50 pas. « Il n'y a personne ici. Pourquoi parlons-nous à voix basse ?»«
Pourquoi ? Et que le diable m'emporte si je le sais !»
s'exclama soudain Dmitri à pleine voix.
« Regarde comment on peut être absurde. Je suis ici pour épier un secret. Les explications viendront après, mais Sous l'impression du mystère, je me suis mis à parler secrètement, à chuchoter comme un sot, sans raison. « Allons, viens, et tais-toi. Mais je veux t'embrasser. » « Gloire à l'Éternel sur la terre. Gloire à l'Éternel en moi. » Voilà ce que je répétais tout à l'heure, assis sur cette place. Le jardin, grand d'environ 2 arpents, n'était planté d'arbres que sur le pourtour, le long des clôtures. Il y avait là des pommiers, des érables, des tilleuls, des bouleaux, ainsi que des buissons de groseilliers et de framboisiers. Le centre formait comme une petite prairie où l'on récoltait du foin en été. La propriétaire louait ce jardin, dès le printemps, pour quelques roubles. Le potager, cultivé depuis peu, se trouvait près de la maison. Dmitri conduisit son frère dans le coin le plus reculé du jardin. Là, parmi les tilleuls, fort rapprochés, et d'anciens massifs de groseilliers, de sureaux, de boules de neige et de lilas, on découvrait comme les ruines d'un antique pavillon vert, noirci et déjeté, au mur à claire-voie, mais encore couvert, et où l'on pouvait s'abriter de la pluie. D'après la tradition, ce pavillon avait été construit, il y a 50 ans, par un ancien propriétaire du domaine, Alexandre Karlovitch von Schmidt, lieutenant-colonel en retraite. Tout tombait en poussière, le plancher était pourri, les ais branlaient, le bois sentait l'humidité. Il y avait une table de bois peinte en vert, enfoncée en terre, entourée de bancs qui pouvaient encore servir. Alyosha avait remarqué l'enthousiasme de son frère. En entrant dans le pavillon, il aperçut sur la table une demi-bouteille et un petit verre. « C'est du cognac !» dit Mitya avec un éclat de rire. « Tu vas penser, il continue à boire !» « Ne te fie pas aux apparences, ne crois pas la foule vaine et menteuse, renonce à tes soupçons. »« Je ne m'enivre pas, je sirote, comme dit ce cochon de Rakitine, ton ami, et il le dira encore quand il sera devenu conseiller d'État. »« Assieds-toi, Alyosha, je voudrais te serrer dans mes bras, à t'écraser, car dans le monde entier, crois-moi, en vérité, « je n'aime que toi !» Il prononça les derniers mots dans une sorte de frénésie. « Toi, et encore une coquine dont je me suis amourachée, pour mon malheur. Mais s'amouracher, ce n'est pas aimer. On peut s'amouracher et haïr. Rappelle-toi cela. Jusqu'à présent, je parle gaiement. Assieds-toi à table, près de moi, que je te vois. Tu m'écouteras en silence et je te dirai tout. Car le moment de parler est arrivé. Mais, sais-tu, j'ai réfléchi. Il faut vraiment parler bas, parce qu'ici, il y a peut-être des oreilles aux écoutes. Tu sauras tout. J'ai dit, la suite viendra. Pourquoi, depuis 5 jours que je suis ici, avais-je une telle envie de te voir? C'est que tu m'es nécessaire, et qu'à toi seul je dirai tout. C'est que demain, une vie finit pour moi, tandis qu'une autre commence. As-tu jamais éprouvé en rêve la sensation de rouler dans un précipice? Eh bien, moi, j'y tombe réellement. Oh, inutile de t'effrayer, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, si, j'ai peur, mais c'est une peur douce qui tient de l'ivresse. Et puis, je m'en fiche. Esprit fort, esprit faible, esprit de femme, qu'importe. Louons la nature. Vois quel beau soleil, quel ciel pur, partout de vert feuillage. C'est vraiment encore l'été. Nous sommes à 4 heures de l'après-midi. Il fait calme. Où allais-tu? J'allais chez mon père, et je voulais voir en passant Catherine Ivanovna. Chez elle et chez le vieux? Quelle coïncidence! Car pourquoi t'ai-je appelé? Pourquoi t'ai-je désiré du fond du cœur, de toutes les fibres de mon être? Précisément pour t'envoyer chez le vieux, puis chez elle, afin d'en finir avec l'une et avec l'autre. Envoyer un ange! J'aurais pu envoyer n'importe qui, mais il me fallait un ange, et voilà que tu y allais de toi-même. Vraiment? Tu voulais m'y envoyer? Dit Alyosha avec une expression douloureuse. Attends, tu le savais. Je vois que tu as tout compris. Mais tais-toi. Ne me plains pas. Ne pleure pas.
Dimitri se leva, l'air songeur. C'est elle qui t'a appelé. Elle a dû t'écrire, sinon tu n'y serais pas allé.
Voici son billet, dit Alyosha en le tirant de sa poche.
Dimitri le parcourut rapidement.
Et tu prenais par le plus court. Oh Dieu, je vous remercie de l'avoir dirigé de ce côté et amené vers moi, tel le petit poisson d'or qui échut au vieux pêcheur, d'après le conte.
Écoute, Alyosha, écoute, mon frère. Maintenant, j'ai résolu de tout te dire. Il faut que je m'épanche, enfin. Après m'être confessé à un ange du ciel, je vais me confesser à un ange de la terre, car tu es un ange. Tu vas m'écouter et me pardonner. J'ai besoin d'être absous par un être plus noble que moi. Écoute donc. Supposons que deux êtres s'affranchissent des servitudes terrestres et planent dans une région supérieure, l'un d'eux tout au moins. Que celui-ci, avant de s'envoler ou de disparaître, s'approche de l'autre et lui dise « Fais pour moi ceci ou cela ». Des choses qu'il n'est jamais d'usage d'exiger, qu'on ne demande que sur le lit de mort. Est-ce que celui qui reste refuserait, si c'est un ami, un frère ?
Je le ferai, mais dis-moi de quoi il s'agit.
Vite, ne te dépêche pas, Alyosha. En se dépêchant, on se tourmente. Inutile de se hâter maintenant. Le monde entre dans une ère nouvelle. Quel dommage, Alyosha, que tu ne t'enthousiasmes jamais. Mais que dis-je ? C'est moi qui manque d'enthousiasme, nigo que je suis. Homme, sois noble.
De qui est ce verre ?
Alyosha résolut d'attendre. Il avait compris que peut-être, en effet, toute son activité se déploierait en ce lieu. Dimitri demeura un moment songeur, accoudé sur la table, le front dans la main. Tous deux se taisaient.
« Alyosha, toi seul m'écouteras sans rire. Je voudrais commencer ma confession par un hymne à la joie, comme Schiller, Hunt je Freud. Mais je ne connais pas l'allemand, je sais seulement que c'est Hunt je Freud. Ne va pas t'imaginer que je bavarde sous l'empire de l'ivresse. Il me faut deux bouteilles de cognac pour m'enivrer.
Telle Silène vermeille sur son âne trébuchant.
Or, je n'ai pas bu un quart de bouteille, et je ne suis pas Silène.
Non, pas Silène, mais Hercule, car j'ai pris une résolution héroïque. Pardonne-moi ce rapprochement de mauvais goût. Tu auras bien d'autres choses à me pardonner aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je ne brode pas, je parle sérieusement et vais droit au fait. Je ne serai pas dur à la détente comme un juif. Attends, comment est-ce donc ?
Il leva la tête, réfléchit, puis commença avec enthousiasme.
Timide, sauvage et nu se cachait le troglodyte dans les cavernes. Le nomade errait dans les champs et les ravageait. Le chasseur, avec sa lance et ses flèches, terrible, parcourait les forêts. Malheur aux naufragés jetés par les vagues sur ces rivages inhospitaliers des hauteurs de l'Olympe. Descend une mer. Cérès, à la recherche de Proserpine, à son amour ravi. Le monde s'étale dans toute son horreur. Pas d'asile, nulle offrande ne sont présentées à la déesse. Ici, le culte des dieux est ignoré, point de temple. Les fruits des champs, les grappes douces n'embellissent aucun festin. Seuls fument les restes des victimes sur les autels ensanglantés. Et n'importe où, Cérès promène son regard éploré. Partout, elle aperçoit l'homme dans une humiliation profonde.
Des sanglots s'échappèrent de la poitrine de Mitya. Il saisit Alyosha par la main.
Ami, ami, oui, dans l'humiliation, et dans l'humiliation jusqu'à nos jours. L'homme endure sur la terre des maux sans nombre. Ne pense pas que je sois seulement un fantoche costumé en officier, bon à boire et à faire la noce. L'humiliation, partage de l'homme. Voilà, frère, presque l'unique objet de ma pensée. Dieu me préserve de mentir et de me vanter. Je songe à cet homme humilié, car c'est moi-même. Pour que l'homme puisse sortir de l'abjection par la force de son âme, il doit conclure une alliance éternelle avec l'antique mère, la terre.
Seulement voilà, comment conclure cette alliance éternelle? Je ne féconde pas la terre en ouvrant son sein. Me ferais-je laboureur ou berger? Je marche, sans savoir où je vais, vers la lumière radieuse où la honte infecte. C'est là le malheur, car tout est énigme en ce monde. Alors que j'étais plongé dans la plus abjecte dégradation, et je l'ai presque toujours été, j'ai toujours relu ces vers sur Cérès et la misère de l'homme. M'ont-ils corrigé? Non, pas. Parce que je suis un Karamazov. Parce que quand je roule dans l'abîme, c'est tout droit, la tête la première. Il me plaît même de tomber ainsi. Je vois de la beauté dans cette chute. Et du sein de la honte, j'entonne un hymne. Je suis maudit, vil et dégradé, mais je baise le bas de la robe où s'enveloppe mon Dieu. Je suis la route diabolique, tout en restant ton fils, Seigneur. Et je t'aime. Je ressens la joie sans laquelle le monde ne saurait subsister. La joie éternelle anime l'âme de la création. Transmet la flamme de la vie par la force mystérieuse des germes. C'est elle qui a fait surgir l'herbe, transformé le chaos en soleil, dispersé dans les espaces, non soumise à l'astronome. Tout ce qui respire puise la joie au sein de la bonne nature. Elle entraîne à sa suite les êtres et les peuples. C'est elle qui nous a donné des amis dans l'adversité. Le jus des grappes, les couronnes des grâces. Aux insectes, la sensualité. Et l'ange se tient devant Dieu. Mais assez de vers. Laisse-moi pleurer. Que ce soit une niaiserie raillée par tout le monde, excepté par toi. Voilà tes yeux qui brillent. Assez de vers. Je veux maintenant te parler des insectes, de ceux que Dieu a gratifiés de la sensualité. J'en suis un moi-même, et ceci s'applique à moi. Nous autres, Karamazov, nous sommes tous ainsi. Cet insecte vit en toi qui es un ange, et y soulève des tempêtes. Car la sensualité est une tempête, et même quelque chose de plus. La beauté, c'est une chose terrible et affreuse. Terrible parce qu'indéfinissable, et on ne peut la définir car Dieu n'a créé que des énigmes. Les extrêmes se rejoignent, les contradictions vivent accouplées. Je suis fort peu instruit, frère, mais j'ai beaucoup songé à ces choses. Que de mystères accablent l'homme. Pénètre-les et reviens intact. Par exemple, la beauté. Je ne puis supporter qu'un homme de grand cœur et de haute intelligence commence par l'idéal de la Madone pour finir par celui de Sodome. Mais le plus affreux, c'est, tout en portant dans son cœur l'idéal de Sodome, de ne pas répudier celui de la Madone, de brûler pour lui comme dans ses jeunes années d'innocence. Non, l'esprit humain est trop vaste. Je voudrais le restreindre. Comment diable s'y reconnaître? Le cœur trouve la beauté jusque dans ta honte, dans l'idéal de Sodome, celui de l'immense majorité. Connaissais-tu ce mystère? C'est le duel du diable et de Dieu, le cœur humain étant le champ de bataille. Au reste, on parle de ce qui vous fait souffrir. Arrivons donc au fait.
Chapitre 4. Confession d'un cœur ardent. Anecdote. Je faisais la fête. Notre père prétendait tantôt que j'ai dépensé des milliers de roubles pour séduire des jeunes filles. Imagination de pourceau! C'est un mensonge, car mes conquêtes ne m'ont jamais rien coûté. Pour moi, l'argent n'est que l'accessoire, la mise en scène. Aujourd'hui, je suis l'amant d'une grande dame. Demain, d'une fille des rues. Je divertis les deux, prodiguant l'argent à poignées avec musique et zigane. S'il le faut, je leur en donne, car à vrai dire, l'argent ne leur déplaît pas. Elles vous remercient. Les petites dames ne m'aimaient pas toutes, mais bien souvent. J'affectionnais les ruelles, les impasses sombres et désertes, théâtre d'aventures, de surprises, parfois de perles dans la boue. Je m'exprime allégoriquement, frère, ces ruelles n'existaient qu'au figuré. Si tu étais pareil à moi, tu comprendrais. J'aimais la débauche pour son abjection même. J'aimais la cruauté. Ne suis-je pas une punaise, un insecte malfaisant? Un Karamazov, c'est tout dire. Une fois, il y eut un grand pique-nique où l'on se rendit en sept troïkas, l'hiver par un temps sombre. En traîneau, je couvris de baisers ma voisine, une fille de fonctionnaire sans fortune, charmante et timide. Dans l'obscurité, elle me permit des caresses fort libres. La pauvrette s'imaginait que le lendemain je viendrais la demander en mariage, car on faisait cas de moi comme fiancée. Mais je restai 5 mois sans lui dire un mot. Souvent, quand on dansait, je la voyais me suivre du regard dans un coin du salon, les yeux brûlants d'une tendre indignation. Ce jeu ne faisait que délecter ma sensualité perverse. 5 mois après, elle épousa un fonctionnaire et partit, furieuse, et peut-être m'aimant encore. Ils vivent heureux maintenant. Remarque que personne n'en sait rien. Sa réputation est intacte. Malgré mes vils instincts et mon amour de la bassesse, je ne suis pas malhonnête. Tu rougis, tes yeux étincellent. Tu en as assez de cette fange. Pourtant, ce ne sont là que des guirlandes à la Paul de Kock. J'ai, frère, tout un album de souvenirs. Que Dieu les garde, les chères créatures. Au moment de rompre, j'évitais les querelles. Je n'en ai jamais vendu ni compromis une seule. Mais cela suffit. Crois-tu que je t'ai appelé seulement pour te débiter ces horreurs? Non, c'est afin de te raconter quelque chose de plus curieux. Mais ne sois pas surpris que je n'ai pas honte devant toi. Je me sens même à l'aise. Tu fais allusion à ma rougeur, déclara soudain Alyosha. Ce ne sont pas tes paroles, ni même tes actions qui me font rougir d'être pareil à toi. Toi, tu vas un peu loin. Non, je n'exagère pas, proféra Alyosha avec chaleur. On voyait qu'il était en proie à cette idée depuis longtemps. L'échelle du vice est la même pour tous. Je me trouve sur le premier échelon. Tu es plus haut, au 13e, mettons. J'estime que c'est absolument la même chose. Une fois le pied sur le premier échelon, il faut les gravir tous. Le mieux donc est de ne pas s'y engager. Évidemment, si c'est possible. Eh bien, en es-tu capable? Je crois que non. Tais-toi, Alyosha, tais-toi, mon cher. J'ai envie de te baiser la main d'attendrissement. Ah, cette coquine Grushnechka connaît les hommes. Elle m'a dit une fois qu'un jour ou l'autre, elle t'avalerait. C'est bien, je me tais. Mais quittons ce terrain sali par les mouches pour en venir à ma tragédie. Sali, elle aussi, par les mouches. C'est-à-dire par toutes sortes de bassesses possibles. Bien que le vieux ait menti au sujet de mes prétendues séductions, cela m'est arrivé pourtant, mais une fois seulement. Encore n'y eut-il pas de mise à exécution. Lui, qui me reprochait des choses imaginaires, n'en sait rien. Je n'ai raconté la chose à personne. Tu es le premier à qui j'en parle. Yvan excepté, bien entendu. Lui sait tout depuis longtemps. Mais Yvan est muet comme la tombe. Comme la tombe? « Oui !» Alyosha redoubla d'attention. « Bien qu'enseigne dans un bataillon de ligne, j'étais l'objet d'une surveillance, à la manière d'un déporté. Mais on m'accueillait fort bien dans la petite ville. Je prodiguais l'argent, on me croyait riche, et je croyais l'être. Je devais d'ailleurs plaire aussi pour d'autres raisons. Tout en hochant la tête à cause de mes fredaines, on avait de l'affection pour moi. Mon lieutenant-colonel, un vieillard, me prit soudain en grippe. Il se mit à me tracasser, mais j'avais le bras long. Toute la ville prit mon parti. Il ne pouvait pas grand-chose. C'était ma faute. Par une sotte fierté, je ne lui rendais pas les honneurs auxquels il avait droit. Le vieil entêté, bon homme au fond et très hospitalier, avait été marié 2 fois. il était veuf. Sa première femme, de basse condition, lui avait laissé une fille simple comme elle. Elle avait alors 24 ans et vivait avec son père et sa tante maternelle. Loin d'avoir la naïveté silencieuse de sa tante, elle y joignait beaucoup de vivacité. Je n'ai jamais rencontré plus charmant caractère de femme. Elle s'appelait Agathe, imagine-toi. Agathe Ivanovna. Assez jolie, dans le goût russe, grande, bien en chair, de beaux yeux, mais l'expression un peu vulgaire. Restée fille, malgré 2 demandes en mariage, elle conservait toute sa gaieté. Je me liais d'amitié avec elle, en tout bien tout honneur. Car je nouais plus d'une amitié féminine, parfaitement pure. Je lui tenais des propos fort libres, elle ne faisait qu'en rire. Beaucoup de femmes aiment cette liberté de langage, note-le. De plus, c'était fort divertissant avec une jeune fille comme elle. Un trait encore. On ne pouvait la qualifier de demoiselle. Sa tante et elle vivaient chez son père, dans une sorte d'abaissement volontaire, sans s'égaler au reste de la société. On l'aimait, on appréciait ses talents de couturière, car elle ne se faisait pas payer, travaillant par gentillesse pour ses amis, sans toutefois refuser l'argent quand on lui en offrait. Quant au colonel, c'était un des notables de l'endroit. Il vivait largement. Toute la ville était reçue chez lui. On soupait, on dansait. Lors de mon entrée au bataillon, il n'était question en ville que de la prochaine arrivée de la seconde fille du colonel. Renommée pour sa beauté, elle sortait d'une pension aristocratique de la capitale. C'est Catherine Ivanovna, la fille de la seconde femme du colonel. Cette dernière était noble, de grande maison, mais n'avait apporté aucune dot à son mari. Je le tiens de bonne source. Des espérances, peut-être, mais rien d'effectif. Pourtant, quand la jeune personne arriva, la petite ville en fut comme galvanisée. Nos dames les plus distinguées, 2 excellences, une colonelle et toutes les autres, à la suite, se la disputaient. On lui faisait fête, c'était la reine des bals, des pique-niques. On organisa des tableaux vivants au profit de je ne sais quelles institutrices. Quant à moi, je ne soufflais mot et faisais la fête. C'est alors que j'imaginais un tour de ma façon qui fit jaser toute la ville. Un soir, chez le commandant de la batterie, Catherine Ivanovna me toisa du regard. Je ne m'approchai pas d'elle, dédaignant de faire sa connaissance. Je l'abordai quelque temps après, également à une soirée. Elle me regarda à peine, les lèvres dédaigneuses. « Attends un peu, » pensais-je, « je me vengerai. » J'étais alors un vrai casse-cou, et je le sentais. Je sentais surtout que, loin d'être une naïve pensionnaire, Katineka avait du caractère, de la fierté, de la vertu, surtout beaucoup d'intelligence et d'instruction, ce qui me manquait totalement. « Tu penses que je voulais demander sa main ?»« Pas du tout. Je voulais seulement me venger de son indifférence à mon égard. » Ce fut alors une noce à tout casser. Enfin, le lieutenant-colonel m'infligea 3 jours d'arrêt. À ce moment, le vieux m'envoya 6 000 roubles contre une renonciation formelle à tous mes droits et prétentions à la fortune de ma mère. Je n'y entendais rien alors. Jusqu'à mon arrivée ici, frère, jusqu'à ces derniers jours, et peut-être même maintenant, je n'ai rien compris à ces démêlés d'argent entre mon père et moi. Mais au diable tout cela, on en reparlera. Déjà en possession de ces 6 000 roubles, la lettre d'un ami m'apprit une chose fort intéressante, à savoir qu'on était mécontent de notre lieutenant-colonel, soupçonné de malversation, que ses ennemis lui préparaient une surprise. En effet, le commandant de la division vint lui adresser une vigoureuse réprimande. Peu après, il fut obligé de démissionner. Je ne te raconterai pas tous les détails de cette affaire. Il avait en effet des ennemis. Ce fut dans la ville un brusque refroidissement envers lui et toute sa famille. Tout le monde les lâchait. C'est alors que je servis mon premier tour. Comme je rencontrai un jour Agathe Ivanovna, dont j'étais toujours l'amie, je lui dis « Il manque à votre père 4 500 roubles dans sa caisse.
Comment ?
Quand le général est venu récemment, la somme était au complet.
Elle l'était alors, mais plus maintenant.
Elle prit peur. Ne m'effrayez pas, je vous en prie, d'où tenez-vous cela ?
Rassurez-vous, lui dis-je, je n'en parlerai à personne. Vous savez qu'à cet égard, je suis muet comme la tombe. Je vous laisse simplement vous dire ceci, à tout hasard. Quand on réclamera à votre père ces 4 500 roubles qui lui manquent, plutôt que de le laisser passer en jugement, à son âge, envoyez-moi votre sœur secrètement. Je viens de recevoir de l'argent. Je lui remettrai la somme et personne n'en entendra parler. »
Ah, quel gredin vous êtes ! Quel méchant gredin ! Comment avez-vous le front de dire de pareilles choses ?
Elle s'en alla, suffoquée d'indignation, et je lui criai par derrière que le secret serait inviolablement gardé. Ces deux femmes, Agathe et sa tante, étaient de véritables anges. Elles adoraient la fière Katia, la servaient humblement. Agathe fit part à sa sœur de notre conversation, comme je l'appris par la suite. C'était justement ce qu'il me fallait. Sur ces entrefaites, arrive un nouveau chef de bataillon. Le vieux tombe malade. Il garde la chambre 2 jours entiers et ne rend pas ses comptes. Le docteur Kravzenchko assure que la maladie n'est pas simulée. Mais voici ce que je savais à coup sûr, et depuis longtemps. Après chaque révision de ses chefs, le bonhomme faisait disparaître une certaine somme pour quelque temps. Cela remontait à 4 ans. Il la prêtait à un homme de toute confiance, un marchand, veuf barbu à lunettes d'or, Trifonov. Celui-ci allait à la foire, s'en servait pour ses affaires, et la restituait aussitôt au colonel, avec un cadeau et une bonne commission. Mais cette fois-ci, Trifonov, à son retour de la foire, n'avait rien rendu. Je l'appris par hasard de son fils, un morveux, gamin perverti, s'il en fut. Le colonel accourut. « Je n'ai jamais rien reçu de vous, » répondit le fourbe. Le malheureux ne bouge plus de chez lui, la tête entourée d'un bandage, les 3 femmes lui appliquant de la glace sur le crâne. Arrive une ordonnance avec l'ordre de remettre la caisse immédiatement dans les 2 heures. Il signa. J'ai vu plus tard sa signature sur le registre. Se leva, disant qu'il allait mettre son uniforme, passa dans sa chambre à coucher. Là, il prit son fusil de chasse, le chargea à balle, déchaussa son pied droit, appuya l'arme contre sa poitrine, tâtonnant du pied pour presser la détente. Mais Agathe, qui n'avait pas oublié mes paroles, soupçonnait quelque chose et le guettait. Elle se précipita, l'entoura de ses bras par derrière. Le coup partit en l'air, sans blesser personne. Les autres accoururent et lui arrachèrent l'arme. Je me trouvais alors chez moi, au crépuscule, sur le point de sortir, habillée, coiffée, le mouchoir parfumé. J'avais pris ma casquette. Soudain, la porte s'ouvre et je vois entrer Catherine Ivanovna. Il y a des choses bizarres. Personne ne l'avait remarquée dans la rue, quand elle allait chez moi, ni vue ni connue. Je logeais chez 2 femmes de fonctionnaires, personnes âgées. Elles faisaient le service, m'écoutaient pour tout avec déférence et gardèrent sur mon ordre un secret absolu. Je compris à l'instant de quoi il s'agissait. Elle entra, le regard fixé sur moi. Ses yeux sombres exprimaient la décision, l'audace même, mais la moue de ses lèvres décelait la perplexité. « Ma sœur m'a dit que vous donneriez 4 500 roubles si je venais les chercher moi-même. Me voici, donnez l'argent. » Elle suffoquait, prise de peur. Sa voix s'éteignit, ses lèvres tremblaient. « Alyosha, tu m'écoutes ou tu dors ?»« Dmitri, je sais que tu me diras toute la vérité. » repartit Alyosha, ému. « Tu peux y compter, je ne me ménagerai pas. » Ma première pensée fut celle d'un Karamazov. Un jour, frère, je fus piqué par un mille-pattes et dus rester 15 jours au lit avec la fièvre. Eh bien, je sentis alors au cœur la piqûre de 1000 pattes, un méchant animal, sais-tu.
Je la toisais. Tu l'as vue, c'est une beauté.
Mais elle était belle alors par sa noblesse morale, par sa grandeur d'âme et son dévouement filial,
à côté de moi, vil et répugnant personnage.
C'est pourtant de moi qu'elle dépendait toute, corps et âme, comme encerclée.
Je te l'avouerai, cette pensée, la pensée du mille pattes, me saisit le cœur avec une telle intensité que je crus expirer d'angoisse. Aucune lutte ne semblait possible. Je n'avais qu'à me conduire bassement comme une méchante tarentule, sans l'ombre de pitié. Cela me traversa même l'esprit. Le lendemain, bien entendu, je serais venu demander sa main pour en finir de la façon la plus noble, et personne n'aurait rien su de cette affaire. Car, si j'ai des instincts bas, je suis loyal. Et soudain, j'entends murmurer à mon oreille. « Demain, quand tu iras lui offrir ta main, elle ne se montrera pas et te fera chasser par le cocher. Tu peux me diffamer par la ville, » dira-t-elle. « Je ne te crains pas. » Je regardai la jeune fille pour voir si cette voix ne mentait pas. L'expression de son visage ne laissait aucun doute. On me mettrait à la porte. La colère me prit. J'eus envie de lui jouer le tour le plus vil, une crasse de boutiquier. La regarder ironiquement et, pendant qu'elle se tiendrait devant moi, la consterner en prenant l'intonation dont seuls sont capables les boutiquiers. 4 000 roubles ? Mais je plaisantais. Vous avez compté trop facilement là-dessus, mademoiselle.
200 roubles, avec plaisir et bien volontiers. Mais 4 000, c'est de l'argent, cela. On ne les donne pas à la légère. Vous vous êtes dérangé pour rien.
Vois-tu, j'aurais tout perdu. Elle se serait enfuie, mais cette vengeance infernale eût compensé le reste. Je lui aurais joué ce tour, quitte à le regretter ensuite toute ma vie. Le croiras-tu? À de semblables minutes, je n'ai jamais regardé une femme, quelle qu'elle fût, d'un air de haine. Eh bien, je le jure sur la croix, pendant quelques secondes, je la contemplais avec une haine intense, celle qu'un cheveu seul sépare de l'amour le plus ardent. Je m'approchai de la fenêtre, appuyai le front à la vitre glacée. Je me souviens que le froid me faisait l'effet d'une brûlure. Je ne la retins pas longtemps, sois tranquille. J'allai à ma table, j'ouvris un tiroir, et en tirai une obligation de 5 000 roubles au porteur, qui se trouvait dans mon dictionnaire français. Sans dire un mot, je la lui montrai, la pliai, la lui remis, puis j'ouvris moi-même la porte de l'antichambre et lui fis un profond salut. Elle tressaillit toute, me regarda fixement une seconde, devint blanche comme un linge, et sans proférer une parole, sans brusquerie, mais tendrement, doucement, se prosterna à mes pieds, le front à terre, pas comme une pensionnaire, mais à la russe. Elle se releva et s'enfuit. Après son départ, je tirai mon épée et voulus m'en percer. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Sans doute par enthousiasme. C'eût été absurde, évidemment. Comprends-tu qu'on puisse se tuer de joie ? Mais je me bornai à baiser la lame et la remis au fourreau. J'aurais bien pu ne pas t'en parler. Il me semble d'ailleurs que j'ai un peu brodé pour me vanter en te racontant les luttes de ma conscience. Mais qu'importe, au diable tous les espions du cœur humain. Voilà toute mon aventure avec Catherine Ivanovna. Tu es seule, avec Ivan, à la connaître. Dimitri se leva, fit quelques pas avec hésitation, tira son mouchoir, s'essuya le front, puis se rassit, mais à une autre place, sur le banc qui longeait l'autre mur, de sorte qu'Alyosha dut se tourner tout à fait de son côté.